RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Un mariage religieux peut être reconnu invalide dans l'Église catholique après le jugement d'un tribunal ecclésiastique. C'est notamment le rôle de l'officialité de déterminer si le motif de rupture du sacrement est fondé ou non. Mais alors que signifie cette démarche? Pourquoi engager ces procédures? Et quelles en sont les étapes? On va regarder ça de plus près avec nos invités. Notez que dans la seconde partie de l'émission, on évoquera justement le mariage religieux. Sachez que pour se marier à l'église, il est obligatoire de participer au parcours de préparation au mariage organisé par sa paroisse. En quoi ça consiste? On verra ça à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous aussi, vous avez obtenu la nullité de votre mariage, venez témoigner, racontez-nous comment avez-vous vécu cette procédure, qu'est-ce qui a été simple et difficile. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis, 04 72 38 20 23.
Bonjour Pauline Le Torsiac.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Vous l'avez dit, l'Église catholique peut reconnaître l'invalidité du sacrement de mariage. Il faut pour cela engager une procédure canonique. Chaque année en France, entre 600 et 700 demandes de nullité de mariage aboutissent. Mais quelles sont les conditions requises pour engager un procès en nullité? D'ailleurs, faut-il parler de nullité ou d'invalidité? Que faut-il démontrer? Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, cette phrase de l'Évangile est-elle compatible avec cette procédure? Que fait l'Église en déclarant un mariage invalide? Quel accompagnement pour les personnes qui entament cette démarche? Bref, faire cette démarche, est-ce un chemin de croix ou un chemin de liberté? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos invités, Melchior.
Oui, et jusqu'à 10h, ils sont trois à nous accompagner.
Sophie Chetaille, bonjour. Vous êtes avocat ecclésiastique pour l'officialité du diocèse de Lyon. Vous allez nous éclairer tout au long de cette émission sur les étapes et le sens de cette procédure en nullité de mariage. Grégoire, bonjour.
Bonjour Pauline.
Vous avez 31 ans, vous habitez Paris. Vous avez obtenu au mois de décembre dernier l'invalidité de votre mariage. Dans un instant, vous allez nous raconter votre histoire et le sens de votre démarche. Et puis, Bénédicte Lucereau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes thérapeute de couple et de famille au cabinet Mots-Croisé à Paris. Vous avez écrit de nombreux ouvrages avec le prêtre et canoniste Cédric Burguin, dont « Et si on se mariait, comment savoir si on est prêt ?» C'est aux éditions de l'Emmanuel. Alors, avant d'entrer dans le détail de ces procédures en nullité de mariage, ou plutôt en invalidité, on va commencer par rappeler les principes sur lesquels repose le mariage chrétien. Bénédicte Lucereau, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mariage soit valide?
Mais déjà, il faut que les conditions juridiques de tout mariage soient respectées, c'est-à-dire l'âge, pas de consanguinité. Il y a des critères pour que un mariage soit un vrai mariage. Ça, c'est ce qu'on appelle la validité du mariage, la validité. Parce que souvent, on confond nullité et validité. C'est pas la même chose. La nullité, c'est une procédure canonique sur un mariage qui est valide. Voilà, la validité, si un mariage est invalide, en fait... Le mariage, il y a pas de, on déclare, on dissout le mariage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas de mariage. La nullité du mariage, c'est une procédure canonique qui dit le mariage n'est pas sacramentel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu sacrement de mariage au moment où les époux se sont engagés entre guillemets à l'Église.
Voilà. Alors justement, quels sont les critères concrets pour que le mariage puisse avoir lieu? Déjà, il faut être baptisé, vous l'avez dit, il faut pas qu'il y ait de consanguinité. Quels sont les critères objectifs?
Alors, pas nécessairement baptisé, puisque l'Église reconnaît un mariage valide entre deux personnes qui peuvent ne pas être baptisées, mais qui échangent un consentement libre et éclairé. Parce que le mariage, c'est une réalité naturelle. Et à partir du moment où les personnes s'engagent de façon libre, déterminée, volontaire, avec toute leur conscience et la maturité qu'il faut pour construire une vie commune et s'engager dans l'édification d'une famille, l'Église reconnaît que ce mariage est tout à fait valide.
Donc le mariage peut être conclu entre deux personnes. Il y a un critère qui est important, c'est celui de l'indissolubilité, c'est ça ? C'est intéressant pour comprendre ensuite la suite de notre propos.
Alors, un mariage qui est valide est indissoluble. Par contre, la nullité, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mariage. Donc c'est pas qu'on dissout. C'est pas que l'Église dissout un mariage, c'est que l'Église reconnaît qu'il n'y a pas eu mariage. Et c'est ça qui est très compliqué pour les personnes de comprendre, parce qu'en fait, les personnes, elles ont vécu une vie ensemble, elles ont des souvenirs, elles ont construit quelque chose, elles ont des enfants. Et donc, le terme de nullité, c'est comme un œuf clair, quoi. C'est comme s'il n'y avait rien eu, mais c'est pas ça du tout. C'est pas de dire qu'il n'y a rien eu. Au contraire, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, mais ce qu'il y a eu n'engage pas les conjoints à continuer leur vie commune ensemble. C'est compliqué à comprendre, en fait. Voilà. Donc, reconnaître qu'un mariage est nul, c'est dire, au moment de l'échange des consentements des époux, il y avait quelque chose qui faisait que ce consentement n'engageait pas les deux parties dans quelque chose de définitif, jusqu'à la mort.
Sophie Chetaille, alors justement, il y a ces critères de liberté, de fidélité, d'indissolubilité, d'ouverture à la vie. Ça, c'est des critères que vous allez vérifier quand quelqu'un, une personne vient faire une demande en reconnaissance de l'unité de son mariage.
Oui, effectivement, quand on parle de nullité de mariage, je vais me permettre de revenir sur ce que vous avez dit. Ce n'est pas une annulation, parce que c'est comme si on avait effacé ce qui avait été fait. Et en réalité, la reconnaissance de la nullité ou de l'invalidité, on peut dire effectivement le mot nullité peut être un petit peu...
péjoratif.
Oui, ou négatif. Mais on reconnaît que l'acte juridique matrimonial ne remplissait pas les conditions pour qu'il ait existé. En fait, c'est ça la démarche en invalidité. Les conditions, effectivement, pour qu'un mariage soit valide, il y a plusieurs conditions. Alors, il y a des conditions de forme, ce qui n'a pas été célébré selon les formes prescrites par le droit. Donc, ce sont deux baptisés, enfin, ou pas, mais devant un prêtre, un diacre et deux témoins. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique, qui, si elles ne sont pas remplies, provoque un mariage invalide. L'empêchement de consanguinité, là, dont vous avez parlé. S'il n'y a pas de dispense, le mariage est invalide. Et puis, les cas les plus fréquents, ceux que rencontrent les officialités, ce sont des conditions relatives à l'existence d'un vice du consentement. Et effectivement, qui peuvent être de plusieurs natures. Mais c'est ça qu'on va regarder. Est-ce qu'il apparaît qu'un des éléments nécessaires faisait défaut au moment où on s'est marié ?
Au moment du consentement. Mm-hmm. Vous venez de prononcer le mot officialité. C'est important qu'on donne le cadre. Voilà, quand une personne fait cette démarche-là, on va entendre Grégoire dans un instant, elle s'adresse à un tribunal ecclésiastique. Expliquez-nous un peu comment cela fonctionne. Voilà, vous êtes avocate, mais il y a des juges. Voilà, quel est ce cadre de l'officialité ?
Alors, le tribunal ecclésiastique, qu'on appelle aussi officialité, donc il est chargé par l'évêque d'exercer le pouvoir judiciaire et il est sous la responsabilité d'un vicaire judiciaire, donc l'official qui est un prêtre. Et autour de lui, il y aura des juges, des avocats, des défenseurs du lien qui vont défendre le mariage. Voilà, tout un ensemble de personnes qui vont être amenées à instruire et relire avec la personne, l'avocat plutôt relire avec la personne son histoire de vie, et ensuite les juges de poser une décision. Des trois juges, un collège de trois juges.
Un collège de trois juges. On peut peut-être aussi expliquer, Sophie Chetaille, que cette procédure avec... Il y a une réforme récente avec Amaury Laetitia. Elle est un peu plus courte qu'avant. Expliquez-nous. Il faut ça dure combien de temps, une procédure?
Alors, on essaye de faire en sorte qu'elle dure un an. Parfois, c'est plus long parce qu'il faut entendre plusieurs témoins, parce qu'on peut avoir besoin d'une expertise médicale. C'est vrai qu'on n'a plus besoin depuis la réforme du pape François d'avoir deux sentences conformes. Donc il suffit d'une sentence. Ensuite, la personne peut éventuellement faire appel aussi. Ça peut à ce moment-là durer beaucoup plus longtemps. Mais on essaye de faire en sorte que ça dure un an.
Grégoire, alors justement, vous avez 31 ans. Vous avez obtenu au mois de décembre dernier l'annulation, plutôt l'invalidation de votre mariage au terme d'une procédure qui a duré un an environ. Peut-être expliquez-nous, comment le sens de cette démarche. Vous êtes marié, vous étiez un couple catholique. Vous m'avez dit qu'en préparant cette émission, vous aviez un petit peu coché toutes les cases cato.
Oui, c'est ça.
Racontez-nous votre histoire.
Oui, je me suis marié à 25 ans, il y a 6 ans, c'était en juin 2018, après avoir suivi une solide préparation au mariage, un parcours alpha, une préparation en paroisse à Notre-Dame du Travail et également l'accompagnement avec le prêtre qui allait nous marier. Donc vraiment, toutes les cases étaient cochées. Et puis, au bout de 2 ans de mariage, nous avons rencontré de douloureuses difficultés qui impactaient notamment 2 des 4 piliers du mariage que vous mentionniez tout à l'heure. Et pour moi, en ce qui me concerne, le divorce, c'était vraiment pas une option envisageable. Et j'ai vécu à ce moment-là, je pense, une épiphanie au moment où les difficultés ont commencé à se présenter à nous. Quant au devoir et au sens justement du sacrement du mariage, et spécifiquement sur le pilier de l'indissolubilité, je me disais si je ne pardonne pas à mon épouse, à qui puis-je pardonner? Et puis il y avait aussi une phrase du pape Benoît XVI qui me restait en tête, qui était « Ayez le courage des choix définitifs et vivez-les avec fidélité ». Donc bien sûr, il s'adressait aux jeunes mariés dans ces cas-là. Donc s'en est suivi 18 mois de lutte pour sauver ce mariage, pour finalement aboutir à une séparation. Et immédiatement pour moi, la demande de nullité a été une évidence. Je pense que j'ai attendu peut-être 2-3 jours après ma séparation pour entamer les démarches ou du moins me tourner vers un prêtre qui pourrait me conseiller. Après, on est quand même contraint par le droit civil. C'est comme pour le mariage. Pour le mariage religieux, il faut se marier civilement avant. Et bien, c'est la même chose.
Que le divorce soit prononcé avant d'entamer cette
ouais,
démarche.
Tout à fait.
Peut-être, Grégoire, quelles étaient les conditions qui faisaient défaut et qui vous ont poussé à faire cette démarche?
Alors, les conditions qui faisaient défaut, enfin, il y avait le pilier qui a été retenu dans les chefs de nullité, c'était celui de la fécondité qui était attaqué. Et c'est là-dessus qu'on s'est focalisé avec mon avocate ecclésiastique pour demander la nullité du mariage.
C'était l'un des critères. Comment est-ce que vous avez fait? C'est pas forcément évident d'aller frapper à la porte de l'officialité. Est-ce qu'on sait comment ça marche? Vous l'avez dit, vous imaginiez pas un jour faire cette démarche. Comment vous y êtes pris?
Alors, j'ai eu la chance vraiment deux trois semaines après ma séparation de tomber sur un ouvrage qui s'appelle Nullité de mariage, mon combat, qui a été écrit par Edwige Guton et qui a vécu à peu près la même chose que moi, qui s'est marié relativement jeune, enfin dans la vingtaine, et qui a divorcé et a demandé la nullité ensuite. Et donc c'est dans ce livre que j'ai pu découvrir un peu toutes les arcanes de la nullité de mariage. J'ai également pas dire la chance, mais ma propre mère a obtenu une nullité de mariage d'un mariage précédent et donc j'ai pu être entouré de la sorte. Et heureusement, parce que dans l'Église, c'est encore un tabou, je pense, la nullité de mariage. C'est vu comme parfois comme le divorce des cathos et on trouve pas forcément toujours les bonnes informations.
Et justement, Grégoire, vous le dites bien, c'est un tabou. On essaye d'en parler justement en toute transparence ce matin avec nos invités. Que signifie cette nullité de mariage? Pourquoi engager cette procédure et quelles en sont les étapes? Nos invités vont tout nous dire jusqu'à 10h. Et bien sûr, vous avez la parole pour en discuter avec nous. Si vous avez obtenu la nullité de votre mariage, venez témoigner. Racontez-nous comment vous avez vécu cette procédure. Qu'est-ce qui a été simple et difficile? 04 72 38 20 23 pour témoigner ou directement dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand et Pauline de Torsiac, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec nos trois invités, Sophie Chetaille, avocate ecclésiastique pour l'officialité du diocèse de Lyon, Grégoire qui a obtenu une invalidité de mariage et Bénédicte Lucereau, thérapeute de couple et de famille au cabinet Mot-Croisé à Paris. Nous avons Elisabeth en ligne. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Melchior, bonjour, à toutes et à tous.
On vous écoute.
Eh bien voilà, en fait, moi je parle plus en tant que témoin, oui. C'est-à-dire enfant de parents divorcés et dont le mariage religieux a été porté en annulation. Et ça s'est passé en 1993, donc c'est il y a quelques années déjà. Et en tant qu'enfant, en fait, ça a été bouleversant comme nouvelle, puisque mon papa m'a annoncé qu'il se remariait. Et qui se remarie à l'église. Et là, ma première question, il dit, mais papa, t'es déjà marié à l'église. Et je sais que pour se remarier à l'église, il faut que le mariage est annulé. Ah ben, il est annulé. Et là, en fait, il y a eu deux nouvelles majeures qui m'a annoncé dans quasiment le même temps qu'il se remariait et que son mariage d'avant avec notre maman était annulé. Et sans plus d'autres, plus amples explications. Et ça a été... très compliqué dans ma tête, parce que je l'ai compris comme annulation de mariage et annulation du mariage avec les fruits du mariage, c'est-à-dire nous, les trois enfants, les trois enfants du premier mariage.
Eh bien,
Ça m'a posé question, et puis j'ai pas osé poser la question, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que nous, on représente par rapport à ton ancien mariage? Et voilà, et c'est... néanmoins, notre belle-mère, elle est adorable, c'est une perle, et voilà.
Mais en tout cas, on entend à quel point ça vous a... Voilà, exactement, ça a été un petit traumatisme. Peut-être Bénédicte Lucereau, je vous ai vu réagir en écoutant ce témoignage d'Elisabeth. Comment vous accueillez ce témoignage en tant que thérapeute de couple et de famille?
Ah, mais moi, je l'accueille avec beaucoup... D'abord, merci, c'est courageux de votre part de prendre la parole comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un très gros travail des officialités à faire pour accompagner les enfants dont le mariage des parents est déclaré nul. Parce que ces enfants sont le fruit d'un amour. Faut pas oublier ça. Et ils ont été marqués par toute leur histoire, par ce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Ils ont des souvenirs de l'amour de leurs parents. Il faut pas oublier ça. Ça a existé dans leur histoire. On peut pas dire que c'est nul, ça. C'est très important de le prendre en compte, de le valoriser. C'est même la source de leur sécurité. Et donc, c'est très important de bien accompagner les enfants pour leur expliquer que c'est pas l'amour des parents qui n'a jamais existé, que leur histoire n'a jamais existé, c'est pas ça du tout. C'est juste que l'amour de leurs parents ne les lie pas de façon sacramentelle pour toute la vie. Et que le couple conjugal, c'est compliqué de rentrer dans l'intimité du couple pour expliquer aux enfants quels peuvent être les chefs de nullité, parce qu'on veut pas ternir non plus l'image soit du père soit de la mère, et c'est important que les enfants gardent une belle image de son père ou de sa mère, bien qu'il y ait peut-être des chefs de nullité qui pèsent sur eux. Et donc, il faut beaucoup de doigté, de délicatesse pour parler aux enfants, leur expliquer et faire en sorte qu'ils comprennent ce que c'est qu'une nullité de mariage. Mais c'est difficile. Il y a tout un travail à faire. Je pense qu'on n'a pas, fini ça.
Ouais. Sophie Chetaille, c'est quelque chose, voilà, quand vous accompagnez des personnes, des hommes, des femmes dans cette démarche, est-ce que vous avez l'occasion d'entendre les enfants aussi
En principe, non. Les enfants ne sont pas entendus. Alors en théorie, effectivement, il n'était pas là, on peut dire, au moment de la conclusion du mariage. Néanmoins, il faut les accompagner, effectivement. Et rappeler aussi aux personnes qui viennent faire la demande que l'on accompagne, quand le juge ne va pas juger de l'amour, de leur amour qu'ils ont pu échanger, de cet amour qui était sincère, hein, l'un envers l'autre, on ne va pas juger aussi du fruit de ce mariage que sont les enfants, et leur rappeler qu'on est là pour examiner uniquement les conditions de validité du lien. Et c'est vrai que c'est difficile parfois de faire entendre, leur faire comprendre que ce n'est pas ce qu'on n'annule pas, qu'on n'efface pas tout ce qui a été reçu durant ce mariage. Voilà, et c'est vrai que l'accompagnement est nécessaire. Et je conseille aux personnes souvent d'être accompagnées pour ne pas rester seules, en fait. Je les accompagne, mais il ne faut pas rester seules face à leurs enfants, parfois, tout seul.
Grégoire, c'est un sentiment que vous avez pu ressentir en entamant cette procédure, d'être un peu seule. Voilà, le monde s'effondre et il faut quand même, il y a cette procédure. Vous voulez faire annuler ce mariage et c'est compliqué.
Oui, la solitude est vraiment le sentiment qui a prédominé à ce moment-là, parce que c'est heureusement mais pas banal dans le milieu catholique avant la trentaine de demander cette autopsie en quelque sorte de son mariage. Enfin, j'ai regardé en préparant l'émission le sens d'autopsie, c'est du grec autopsia, voir par soi-même, et je pense que c'est vraiment la démarche de la reconnaissance en nullité du sacrement du mariage. Et malheureusement, encore une fois, c'est ce qui manque des structures pour pouvoir accompagner. J'ai eu la chance, pour ma part, de tomber sur une avocate ecclésiastique qui m'a orienté vers quelqu'un de très compétent pour m'aider sur ces sujets-là. Mais oui, on se sent seul parce dans mon cas, j'étais totalement à contre-courant de mes amis qui, eux, qui se mariaient, qui avaient des enfants. Et c'était ce décalage avec les autres qui étaient compliqués.
Et on parle bien de demande en unité, je crois que j'ai dit annulation. Les mots ont un sens. Grégoire, comment vous avez fait? Alors, je crois que quand on entame cette démarche, on se met un peu à nu.
Oui, ouais, tout à fait. Vous disiez en introduction, est-ce que c'est un chemin de croix ou un chemin de liberté? Je dirais que c'est un peu les deux, aussi un chemin de pardon. Mais c'était surtout pour moi, et c'est comme ça que l'officialité aussi en parle, un chemin de vérité. Le but n'est pas du tout d'accuser l'autre, et donc le but c'est d'être le plus factuel possible. Lorsqu'on rencontre l'avocat ecclésiastique, ça peut durer entre 2 et 3 heures. On commence vraiment à la toute petite enfance et toute notre vie est passée au peigne fin. Moi, il y a des choses que j'ai pu confier à mon avocat que je n'ai jamais confiées à personne. Mais vraiment parce que j'étais dans cette démarche de vérité, je ne voulais pas faire, mentir ou pour obtenir plus facilement ma nullité de mariage. Et de toute façon, et là c'est plus lorsque l'on passe devant le juge, on prête serment sur les saints évangiles, donc ça vous enjoint pas à mentir.
Sophie Chetaille, comment les personnes qui arrivent pour la première fois, comment est-ce qu'on les accompagne? Qu'est-ce que vous leur demandez? Quelles sont les étapes de cette procédure, les premières étapes?
C'est déjà les aider à relire leur vie. Et c'est vrai que cette recherche de vérité s'accompagne aussi c'est un chemin de souffrance, hein, parce que c'est pas facile de relire sa vie, comme vous dites, de se montrer tel qu'on est, hein, parfois. Donc on essaye de discerner avec elle, de voir les éléments qui pourraient faire penser qu'effectivement au moment du mariage, il y avait des éléments qui n'étaient pas là pour qu'ils soient valides.
Et vous, votre rôle, c'est justement, vous êtes l'avocate, c'est comme dans le droit civil, c'est de défendre
Je défends
la personne.
Non, justement, on ne défend personne, on n'est pas là l'un contre l'autre. Et parfois, il faut le rappeler aussi aux personnes qui viennent nous voir. Moi, il m'est arrivé d'avoir des personnes très, très en colère et qui, au fur et à mesure de la démarche, s'apaisent et même sont presque capables, à l'issue même, ou même si l'invalidité n'est pas posée, de pardonner. Il peut y avoir un vrai chemin de libération. Dans cette recherche de vérité.
Vous leur demandez enfin, chaque personne doit rédiger un mémoire, c'est ça? Expliquez-nous concrètement comment ça se passe.
Ou pas, mais c'est vrai que le fait de poser par écrit leur histoire, et puis surtout ce qui concerne le mariage, peut nous aider en qualité de après peut aider les juges, mais surtout peut aider l'avocat et la personne à faire ressortir des éléments saillants en fait qui vont nous aider ensuite par la suite à déterminer en fait sur quel chef, sur quel motif la demande va être posée.
Qui sont les protagonistes de cette démarche en nullité? Donc il y a l'avocat, il y a vous l'avez dit tout à l'heure, le défenseur du lien, les témoins, expliquez-nous.
Alors,
quelques mots.
La personne vient nous voir, on va développer avec elle, elle va écrire ce qu'on appelle son mémoire, elle va écrire, on va déposer une demande à l'officialité, donc auprès de l'official, qui va nommer un tribunal de 3 juges. Et aussi un défenseur du lien qui va examiner tous les aspects pour ne pas laisser en fait de côté des zones d'ombre.
Et on va continuer d'en parler dans un instant. On marque une petite pause, exactement. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour témoigner si vous avez obtenu cette invalidité de mariage. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Pauline de Torsiac, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis, on évoque le mariage religieux qui peut être reconnu invalide dans l'Église catholique après le jugement d'un tribunal ecclésiastique. On était justement, il y a quelques instants, Sophie Chetaille, en train d'évoquer les différents acteurs qui participent à cette nullité de mariage. Vous vouliez continuer?
Alors, déjà, il y a le demandeur. Donc, quand il vient demander la reconnaissance de l'invalidité de son mariage, donc l'autre conjoint, évidemment, qui est quand même l'autre partie, va être interpellé par l'officialité en lui disant qu'il y a eu cette demande et en lui proposant, évidemment, de participer à la procédure. Et s'il refuse, la procédure se poursuit quand même. Parce que l'Église considère que la vérité du lien, de ce lien matrimonial est importante. Et elle doit être faite si au moins un des conjoints, des deux conjoints la demande. Ensuite, la partie ou les deux parties seront entendues et pour corroborer en fait, pour rechercher les preuves de ce qu'elles nous avancent, même si évidemment on les croit sincèrement, on va entendre des témoins, c'est-à-dire des personnes qui vont raconter ce qu'elles savent de ce mariage, de ces personnes, pour nous aider en fait à croiser et à déterminer effectivement la preuve. Les éléments qu'elles ont apportés.
Qui nomme ces témoins?
C'est les parties qui les désignent. Quand elles déposent leur dossier, elles disent vous pourrez demander à telle et telle personne.
Et on va continuer de voir un peu dans un instant en quoi consiste cette procédure, quelles sont les différentes étapes avec toujours vos appels au 04 72 38 20 23. On entendra Geneviève après cette chanson. Vous pouvez également nous envoyer des mails à l'adresse direct@rcf.fr ou nous rejoindre dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner
chaque corps déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car
c'était Glorious pour vous accompagner en ce lundi matin. Pour moi, tu l'as fait.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos trois invités jusqu'à 10h, Pauline Bénédicte Lussureau, thérapeute de couple et de famille au cabinet Mots-Croisé à Paris, Grégoire qui a obtenu l'invalidité de son mariage et Sophie Chetaille, avocate ecclésiastique pour l'officialité du diocèse de Lyon. Alors Pauline, c'est pas amusant, mais on reçoit quelques messages de la part de nos auditeurs qui parlent d'annulation. Je pense qu'on n'a pas été assez précis là-dessus.
Justement, Sophie Chetaille, expliquez-nous très concrètement, parce que voilà, on se mélange les mots, on parle d'invalidité, de nullité. On a entendu Elisabeth tout à l'heure, qui était voilà aussi un peu traumatisée par le procès en nullité de mariage de ses parents. Voilà, quel est le sens? Voilà, est-ce qu'on annule le lien, le sacrement? Qu'est-ce qui s'efface après, à l'issue de cette procédure?
Ben justement, ce n'est pas une annulation parce qu'on n'efface pas ce qui a été fait dans le cadre de la démarche. Mais la nullité, c'est reconnaître, c'est constater, et c'est ce que font les juges, hein, qui déclarent que les conditions de ce mariage qui avait l'apparence, qui apparemment était valide, les conditions étaient juridiquement inexistantes en fait. Et c'est pour ça que l'annulation est, comment dire, un aspect un peu négatif, mais ce n'est pas une annulation. Alors nullité aussi est un peu négatif, donc c'est pour ça qu'on parle d'invalidité, ce n'est pas valide, les conditions juridiques ne sont pas remplies.
Grégoire, vous vouliez réagir, vous aviez bien conscience de cela en faisant cette démarche, c'est important de le dire.
Oui, une annulation de mariage, pour moi, c'est quand, je sais pas, deux mois avant, on annule son mariage.
C'est ça.
Une nullité, dans mon cas personnel, c'est ce qui est le plus dur, en fait, c'est difficilement palpable. Parce que c'est un jour qui a eu lieu, on était dans une église, il y a un échange des consentements, il y a une belle fête après. Et pourtant, en fait, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas le sacrement. Et c'est ça qui est le plus dur à comprendre le jour où j'ai reçu la décision de l'officialité. Parce que le premier effet immédiat qu'on trouve, c'est déclare le demandeur libre de contracter un nouveau mariage dès réception de la notification du décret. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit. Et en fait, moi, le premier sentiment qui m'est venu à l'esprit, c'est en fait tout ça pour ça. 18 mois de combat dans mon mariage, puis presque 2 ans ensuite entre le divorce civil et la demande auprès de l'officialité. Tout ça pour en fait un mariage où le sacrement n'était pas là. Et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre sur le moment et où je pense c'est bien de se faire accompagner.
Bénédicte Lussereau, vous vouliez réagir?
Mais oui, mais en fait, ce qui peut aider à comprendre, c'est quand on, par exemple, on pense à une promesse qui a été faite. Et cette promesse n'est pas une vraie promesse. Il y a un mensonge dans la promesse. Et donc, ça peut aider à comprendre que s'il y a mensonge dans la promesse, cette promesse n'est pas une promesse. C'est une promesse qui n'engage pas. Puisqu'en fait, c'était pas une vraie promesse qui venait de toute la personne et qui engageait la personne pour toute sa vie. Or, le consentement dans un mariage, c'est une promesse qui engage tout l'être pour toute la vie. Et s'il manque quelque chose dans cet engagement, on peut comprendre que en fait, c'est bancal. Il y a quelque chose qui manque. Donc, je pense que si on fait réfléchir les personnes autour de la notion de promesse avec un mensonge ou une ignorance dans l'acte de la promesse, du coup, on peut comprendre que cette promesse n'engage pas vraiment. Voilà. Disons que ça aide à comprendre. Voilà. Moi, je voudrais quand même dire que cette procédure en nullité, c'est vraiment un acte de miséricorde de l'Église. Je pense qu'il faut vraiment rappeler ça. On ne se situe pas du tout comme un procès juridique dans un tribunal
à compter les points.
Normal. Enfin, c'est vraiment aider les époux à comprendre que le mariage dans l'Église, c'est pas une prison. Moi, je me marie pas pour souffrir toute ma vie. Je me marie pas pour être enfermée dans une cage toute ma vie. C'est pas ça, le mariage. Le mariage, c'est d'abord un appel de Dieu. C'est ensuite une voie de sainteté. C'est l'appel à rendre l'autre plus épanoui, plus libre, plus lui-même, et inversement, de pouvoir soi-même grandir dans sa propre identité par la relation qu'on crée avec l'autre. Donc, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le juridique pur et dur. C'est vraiment, il faut se situer à un autre niveau, à un niveau spirituel, où le mariage, c'est un sacrement, c'est un appel à la sainteté, c'est une alliance. Et donc, il faut aussi raisonner autrement que dans nos schémas purement humains. Et c'est important de se dire que le Seigneur ne nous ligote pas. Au contraire, il veut notre épanouissement, il veut qu'on soit libre, il veut qu'on soit libre d'aimer, de nous donner pleinement, entièrement. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler pour tous les catholiques qui voient d'une façon pingre ce que peut être une nullité de mariage. Mais il faut le voir de façon large, de façon ouverte, pour le bonheur des couples, il peut y avoir des erreurs, bien sûr. Il peut y avoir des préparations au mariage qui ont été mal faites. Moi, je peux vous dire que des préparations au mariage qui sont faites en deux après-midi, c'est pas sérieux. Je veux dire, comment on peut aller vérifier que les gens, ils ont compris ce que c'était que le mariage en deux après-midi? Mais en fait, on les leurre sur ce qu'on va leur demander après. Donc, il y a déjà une ignorance de ce qu'est le mariage. Après, ils vont s'engager sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas bien. On ne va pas vérifier. Et ensuite, on ne va pas vérifier leur capacité à vivre ce à quoi ils s'engagent. Donc, à la limite, c'est grave de notre côté à nous, côté Église, même s'il y a eu plein de progrès de fait, qu'il y a de très belles préparations au mariage, mais quand même, globalement, franchement, on se prépare pour vivre la vie entière avec quelqu'un, mais c'est quoi nos préparations, franchement? Mais il faut aller plus loin aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, d'immédiateté, on change de personne comme de Kleenex, la parole n'a plus... la parole, ça vaut rien. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où c'est vrai que le mariage, il faut reconstruire le sens du mot de ce qu'est mariage.
Grégoire, sur ce que dit Bénédicte et aussi sur la notion de miséricorde, vous avez vraiment aussi entamé cette démarche avec il y avait vraiment une démarche spirituelle dans cette procédure. Comment vous recevez ce que dit Bénédicte?
J'abonde totalement ce que dit Bénédicte. En effet, je le vois parfois auprès de connaissances des mariages, enfin des préparations au mariage qui sont en un week-end, une retraite. Pour moi, c'est pas suffisant. Et qu'est-ce que c'est de s'engager pendant 8-9 mois dans une préparation régulière si ça vous permet aussi derrière de s'engager pour toute la vie en étant serein. Enfin, je pense que c'est un super investissement à faire que de bien se préparer au mariage, de faire des retraites, d'avoir un prêtre qui vous accompagne. Bon, moi je dis ça, bon, dans les faits ça n'a pas fonctionné pour moi, mais je reste fondamentalement attaché au sacrement du mariage. Je crois à l'amour inconditionnel et au pardon qui transcende. En effet, je l'ai fait dans une démarche de foi et les fruits qu'on portait cette démarche ont été incroyables. Enfin, j'ai un ancrage dans ma foi qui est beaucoup plus solide parce que je pense que pour la première fois dans ma vie, je comprenais ce qu'était porter sa croix. Et puis j'ai découvert également l'abandon un peu à l'image de Charles de Foucault dans sa prière d'abandon, une confiance totale en me disant que si le Seigneur met ça sur mon chemin, il y a sûrement quelque chose d'encore plus beau qui m'attend ensuite. Et c'était vraiment ma démarche a été jalonnée par ces choses-là et j'en suis très heureux. J'ai reçu beaucoup de grâce, notamment grâce à mes amis et aux accompagnements spirituels que j'ai pu avoir.
On va accueillir l'éditrice.
Exactement, c'est Geneviève qui patiente depuis déjà quelques minutes. Bonjour Geneviève.
Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour Melchior.
On
je
vous
vais
écoute.
Essayer de synthétiser mon histoire un peu difficile.
Oui.
Je viens de recevoir à l'instant les deux messages de Bénédicte et de Grégoire. Pour moi, c'est fondamental ce qui vient d'être dit là à l'instant. Quand je me suis mariée, j'avais à peine plus de 20 ans, j'avais une histoire déjà compliquée, puisque je n'avais pas de père, j'avais pas de frère, enfin j'étais dans l'ignorance totale, absolument mais totale, hein. Quand je dis totale, c'est totale de ce qu'était un homme, etc. Je suis un peu émue parce que c'est encore très très douloureux. Et donc j'ai rencontré mon mari dans un groupe franciscain, donc je me disais que pour moi c'était un gage de confiance, quoi, puisque c'était dans un cadre chrétien.
Oui.
Malheureusement, cet homme avait une grande pathologie psychique, psychiatrique, hein. C'était très grave. J'avais été alertée par le prêtre qui animait justement cette rencontre franciscaine, qui m'avait mise en garde avec véhémence. Mais bon, quand on a 20 ans, enfin j'avais un peu plus de 20 ans, mais je n'ai pas écouté, d'autant que j'avais une pression familiale extrêmement forte pour me marier, avoir des enfants, ma mère me... Enfin bref, je me sentais prise comme dans un étau quelque part, je ne me sentais pas libre du tout, et j'ai senti très vite que je faisais fausse route, très très rapidement, mais... Pour ne pas, j'avais une peur bleue de ma famille quelque part. J'avais très très peur et je n'ai pas osé dire que j'abandonnais, donc j'ai continué.
Et Geneviève,
Et alors en fait, bon, au bout, ouais. Je vais être, il y a
oui.
trois enfants. Nous avons tous souffert le martyr, non seulement tous les quatre, les trois enfants et moi, mais même l'entourage, hein, ma propre mère. Enfin, ça a été terrible. Quand je suis partie, j'ai voulu vraiment sauver ma vie et celle de mes enfants. Mmh. Parce qu'il était tellement malade qu'il me menaçait de mort si je partais. Hein. C'était,
Geneviève, et pardon, je me permets de vous couper parce que voilà, l'émission passe très très vite. Est-ce que, j'en viens peut-être au bout de votre témoignage, mais est-ce que vous avez essayé de demander cette annulation de cette invalide, vous voyez, moi aussi je me trompe. Cette nullité, voilà. De mariage, Geneviève.
Pas du tout, parce que je me considère comme une nouvelle convertie depuis 4 ans maintenant, pas plus, bien que j'ai toujours baigné dans la foi chrétienne, mais je n'avais pas une foi réelle et profonde et vivante comme maintenant. Mon seul objectif, c'était de nous sauver, physiquement, moralement, évidemment. Et puis je n'avais pas conscience de la primauté de Dieu, de la primauté alors que
merci Geneviève.
J'en ai une claire conscience,
voilà.
D'autant que j'ai une mission d'accompagnatrice spirituelle demandée par l'Église.
Voilà, et vous œuvrez encore dans l'Église. Merci beaucoup Geneviève. Pardon, je me permets de couper la parole. N'y voyez aucune offense. Voilà. Il faudrait faire un peu plus court si possible. C'était un témoignage très touchant.
Sophie Chetail, Geneviève parlait de foi profonde pour demander une nullité. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a des critères pour faire cette demande? Est-ce qu'on vérifie le degré de foi
au moment du mariage?
Non, au moment de la quand on
ah,
fait
non,
parce qu'elle
non,
dit
non.
Elle disait j'ai pas demandé parce que j'étais je suis une nouvelle convertie.
Mais c'est vrai qu'il m'arrive de recevoir des personnes qui sont effectivement des recommençants en fait et qui redécouvrent la foi et qui parfois sont engagées dans une autre union et qui en regardant en arrière se posent la question de la validité de leur mariage parce qu'elles ont rencontré le Christ en fait et elles ont compris que le Christ aurait pu s'engager avec eux à leur côté et que oui, c'est souvent un élément de déclenchant, je dirais.
Bénédicte?
Mais un mariage qui n'a pas toutes les conditions de validité, mais qui n'est pas déclaré nul parce qu'il n'y a pas eu de demande. C'est un mariage qui est considéré comme valide. Donc, moi, je vois en thérapie des personnes qui, par appel personnel de Dieu, continuent à s'investir dans un couple qui, à mon avis, le mariage n'est pas valide. Mais, ça, enfin... Je veux dire, entre une parole pour tout le monde et puis l'appel personnel d'un époux à continuer à s'engager pour une raison tout à fait personnelle, à faire tenir un mariage qui peut être douloureux, qui a de fortes chances d'être nul, mais la personne continue, on ne peut que s'incliner. Moi, je me méfie un petit peu aujourd'hui de cette notion qui est très développée aujourd'hui d'amour inconditionnel, dont on a parlé tout à l'heure. L'amour inconditionnel, oui et non. C'est-à-dire que moi, si je me fais battre par mon mari, s'il est perpétuellement infidèle et s'il avait une autre liaison avant de se marier avec moi, je veux dire non, l'amour inconditionnel, il y a un moment où ça va pas. Je veux dire, de quel amour parle-t-on ? Alors, oui, si je le regarde avec les yeux du Christ et que... Je ne condamne pas, je ne juge pas, etc. D'accord, mais je dois aussi me respecter moi-même, me faire respecter, parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle amour inconditionnel dans le mariage, dans une relation qui peut être toxique.
Grégoire, vous me disiez, en préparant cette émission, j'ai trouvé ça très, très, très touchant, vous me disiez qu'il y avait une forme de fécondité à cette épreuve, hein, à cette démarche.
Oui, parce que c'était ma principale question et ma principale crainte de me dire quelle est finalement ma fécondité dans ce bas monde suite à cet échec. On peut dire tout ce qu'on veut, ça reste un échec pour les mariés qui voient leur le couple qui voit son mariage reconnu nul. Pour moi, la nullité, la fécondité de cette démarche a été aussi de pouvoir plus facilement parler de ces sujets-là, pouvoir accompagner aussi des amis qui se posaient des questions éventuellement sur le sacrement du mariage. Alors, j'ai pas du tout la prétention d'être un thérapeute de couple ou d'avoir la science infuse sur cette thématique, mais je pense qu'à terme. Pas maintenant, parce que je suis encore sûrement trop jeune, je ne suis pas marié, mais je pense qu'à terme ma fécondité et mon rôle sera de pouvoir accompagner des couples dans le mariage et peut-être aussi comme Sophie accompagner des personnes qui demandent la nullité de leur mariage.
Sophie, on l'a compris aussi dans le témoignage de Grégoire, vous en reparlez sans doute dans un instant, mais il y a cette notion d'accompagnement qui est pas facile. Grégoire l'a dit, hein, il s'est senti seul. Il a cité le livre d'Edwige Guiton qui a écrit ce livre parce que pour aider finalement ceux qui font cette démarche là et pour qui c'est pas simple. Voilà, qu'est-ce qui est fait pour justement accompagner les personnes qui entament cette démarche?
Ben c'est vrai que la personne se livre et en fait un bout de chemin avec elle, me semble-t-il, pour que, au cœur de cette souffrance qui est la leur, effectivement de l'échec de l'échec matrimonial, la vérité puisse se faire. Après, il y a un accompagnement qui peut être spirituel, mais à ce moment-là qui est pas de mon ressort, mais qui est nécessaire, c'est certain.
On a Flore qui habite dans les Ardennes qui nous a rejoint. Bonjour Flore.
Oui, bonjour Flore.
Je vais vous demander de faire court et rapide si possible, Flore.
Oui,
allez-y.
Oui. Eh bien, écoutez, c'est une grâce d'entendre de mettre RCS ce matin et d'entendre votre émission qui était déjà commencée mais que j'ai réécoutée du début. Parce qu'en fait, je suis divorcée depuis une vingtaine d'années. Nous étions mariés en 1980, nous avons eu 3 enfants. Et en fait, nous n'avons jamais fait de préparation au mariage religieux. Et on ne connaissait même pas cette possibilité, cette offre avant le mariage religieux. Et en fait, assez vite, je pense que je me suis mariée, enfin c'est moi-même qui ai proposé.
Oui.
Et puis par la suite, ben, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû, que j'avais fait une erreur, mais bon, j'ai quand même continué et tout, et
oui,
au bout d'un certain nombre d'années, voilà.
Alors donc, vous avez divorcé il y a 20 ans, est-ce que vous avez engagé une procédure de nullité de mariage religieux, Flore?
Alors, j'ai commencé...
Allons-y franchement.
Voilà, oui, j'ai commencé à rencontrer un prêtre sur Reims par deux fois, et donc, enfin, au téléphone déjà, et puis une fois sur place, et en fait, je n'osais pas, donc je n'en ai parlé à personne hein, de ma famille, et je n'osais pas parce que j'avais l'impression que mes enfants allaient de nouveau souffrir, j'ai toujours cette impression de toute façon, une seconde fois. Et surtout qu'elles allaient se trouver nulles aussi, en fait, annuler leur existence quelque part. Mais je me suis dit, en entendant surtout qu'il fallait les préparer ce matin, et je me suis dit que je pourrais leur parler ou leur écrire, parce qu'en fait, c'est uniquement moi, bon, leur papa aussi, de toute façon,
oui,
que je vais mettre au courant, c'est uniquement moi pour vivre vraiment en vérité. Parce que
Voilà, Flore, et on entend à quel point c'est important pour vous d'en parler avec vos enfants. Merci beaucoup, je me permets de vous couper parce qu'on arrive vite à la fin de l'émission. Bénédicte Lucereau, peut-être un commentaire sur ce témoignage. Ça rejoint un peu ce qu'on a entendu en début d'émission d'ailleurs.
Oui, mais le courage de la vérité qui fait toujours avancer dans la vie, qui rend libre, même si ça peut être douloureux de réouvrir des domaines de notre vie qu'on a fermés par peur de souffrir. Mais au bout du bout, il y a une liberté plus grande qui s'ouvre. Et une capacité d'aimer peut-être qui est renouvelée, qui est redonnée différemment. Voilà, mais donc c'est une très belle démarche.
Votre micro,
Sophie Chetaille, c'est une démarche de quand les personnes viennent vous voir, ils viennent dans cette voilà, une volonté de rendre ce mariage nul, invalide, mais il y a aussi une démarche de foi, de vérité. Dans quel état d'esprit sont-ils en général ?
Oui, c'est vraiment les aider à faire la lumière en fait sur leur histoire personnelle hein, qui est douloureuse, et les accompagner. Et c'est un chemin effectivement de souffrance, mais vraiment de liberté et parfois de joie même. Enfin, moi, parfois, j'ai beaucoup de joie à leur annoncer la nouvelle. Pour eux aussi, en fait, même si effectivement. Ben, l'histoire parfois est difficile et la relecture est difficile. Mais le fait que ces procédures de nullité existent, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, c'était ce prolongement vraiment de la miséricorde de Dieu hein, qui reconnaît qu'on peut s'être trompé. Et ce chemin de reconnaissance et de miséricorde doit effectivement être rendu possible à toutes les personnes qui le demandent.
Grégoire, ce chemin de miséricorde, vous l'avez aussi vécu. Comment vous avez réagi au mois de décembre quand vous avez reçu voilà la lettre qui vous annonçait justement que votre mariage était considéré
Alors,
comme nul?
Ouais, j'avais été un peu spoilé avant par mon avocate qui m'avait appelé, oui, je suis resté bouche bée, et il y avait une petite, forcément, on se fait le film dans sa tête, et moi j'étais assez convaincu de l'obtenir, mais il y avait une petite déception en disant bon, je suis pas totalement libéré. La vraie libération en quelque sorte, enfin pas libération, mais là où je me suis senti totalement réhabilité, c'est lorsque j'ai su quelques jours plus tard via mon avocate qu'il y avait l'existence d'un vétitum vis-à-vis de mon ex-épouse. Le vétitum, c'est l'interdiction pour l'instant de se remarier à l'église, qui peut être levée par l'évêque plus tard, mais ça m'a permis de me dire bon, on n'est pas juste renvoyé dos à dos. On me reconnaît en quelque sorte. Alors c'est pas le statut de victime, mais c'est le fait de qu'on n'est pas. C'est pas juste un partout balle au centre. Et c'est ça qui m'a vraiment soulagé et qui m'a permis de me dire yalla.
Qui vous permet de repartir aussi. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus témoigner. Merci beaucoup Grégoire d'avoir accepté de venir nous raconter votre histoire. Sophie Chetaille, merci. Je rappelle que vous êtes avocate ecclésiastique à l'officialité de Lyon. Et Bénédicte Lussereau, merci aussi de nous avoir accompagnés. Vous êtes thérapeute de couple et de famille. On continue?
Oui, vous avez écrit de nombreux ouvrages. On peut noter celui écrit avec le canoniste Cédric Burguin. Et si on se mariait, comment savoir si on est prêt, aux éditions de l'Emmanuel. On continue, Pauline, vous l'avez dit. Alors, on a entendu dans les témoignages, certains témoignages, l'importance de la préparation au mariage religieux. Il y a 20 ans, c'était peut-être pas obligatoire, comme on l'a entendu avec Flore à l'instant. Ben justement, dans la seconde partie de l'émission, pourquoi et comment se préparer au mariage religieux ? On va en parler avec nos invités, puis bien sûr, avec vos appels, vos témoignages au 04 72 38 20 23, dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, ou à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite!